petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je m'appelle Étienne Gis, je suis mathématicien et l'un des deux secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences. Dans ces petites histoires de science, je voudrais vous présenter quelques morceaux choisis de science, le plus simplement possible. Je les regrouperai par série de 4 ou 5 sur des sujets voisins. Dans cette première série, je serai seul pour vous raconter des histoires et vous défier avec quelques énigmes. Par la suite, ce seront des dialogues très informels avec des scientifiques dont les parcours sont les plus variés possibles au gré de mes rencontres. Bonne écoute. Vous n'avez probablement jamais entendu parler de Charles Dodgson, un obscur professeur de mathématiques d'Oxford au XIXe siècle. Vous le connaissez pourtant. C'est sous le pseudonyme de Lewis Carroll qu'il a écrit Alice au Pays des Merveilles et De l'autre côté du miroir. On raconte, je ne sais pas si c'est vrai, que la reine Victoria avait tellement aimé Alice au Pays des Merveilles qu'elle fit demander à l'auteur de lui envoyer ses autres livres. Quelle surprise lorsqu'elle reçut des ouvrages mathématiques dont certains sont très techniques. On doit à Charles Dodgson un petit livre étonnant, Problème d'oreiller, de petits exercices de maths qu'il s'agit de résoudre de tête dans son lit, dans l'obscurité. Avis aux amateurs. J'aime bien aussi son recueil Tangled Tales, qu'on peut traduire par Histoires embrouillées. Malheureusement, pas traduit en français à ma connaissance. Il s'agit de charmantes petites histoires destinées à des écolières. On connaît la fascination de Lewis Carroll, le mot est peut-être même un peu trop faible, pour les petites filles. Chacune de ces historiettes contient une énigme mathématique qui est, comme il l'écrit lui-même, le médicament qu'on tente avec tant d'habileté et si peu de succès de dissimuler sous la confiture. Voici sa première histoire en traduction libre. Excelsior. La lueur rougeoyante du coucher du soleil s'effaçait déjà dans les sombres ombres de la nuit, lorsque deux voyageurs furent observés en train de descendre rapidement, à un rythme de 6 km à l'heure, le flanc accidenté d'une montagne. Bon, j'ai traduit « mille » ou « miles » par « kilomètre » pour ne pas compliquer la traduction. Le plus jeune bondissait de rocher en rocher avec l'agilité d'un fauve. « Nous avons un bon rythme, I presume », s'exclama-t-il. « Nous ne sommes pas allés aussi vite dans la montée. » « En effet, » répondit l'autre avec un gémissement, « nous n'avons fait que 3 km à l'heure dans la montée. » « Et sur le plat, notre vitesse est, » suggéra le plus jeune car il n'était pas bon en calcul, et laissait ce genre de détails à son compagnon plus âgé. « 4 km à l'heure, » répondit l'autre avec lassitude. « Pas un gramme de plus, » ajouta-t-il avec cet amour de la métaphore si commun à la vieillesse. « Et pas un sou de moins. » Il était 3 heures de l'après-midi lorsque nous avons quitté notre hôtel, dit le jeune homme d'un air songeur. « Nous serons à peine de retour à l'heure du souper. Peut-être que notre hôte nous refusera toute nourriture. « Nous n'aurons que nos desserts, » soupira le chevalier le plus âgé, qui n'avait jamais vu de plaisanterie de sa vie et qui était quelque peu mécontent de la légèreté intempestive de son compagnon. « Il sera 9 heures du soir, » ajouta-t-il à voix basse, lorsque nous regagnerons notre hôtel. « Nous aurons fait beaucoup de kilomètres aujourd'hui. « Combien ?» s'écria le jeune homme avide de savoir, toujours assoiffé de connaissances. Le vieil homme resta silencieux. « Je te dirai au centimètre près, » répondit-il après un moment de réflexion, « quelle distance nous aurons parcouru entre 3 heures et 9 heures du soir. » Un gémissement fut la seule réponse du jeune homme, tandis que ses traits convulsés et les rides profondes qui se succédaient sur son front viril révélaient l'abîme d'angoisse et d'agonie arithmétique dans lequel une question fortuite l'avait plongé. Voilà pour l'énigme. Je la résume en trois phrases, en retirant la confiture. Des promeneurs partent à 3h de l'après-midi et reviennent à 9h du soir. Ils ont d'abord suivi un chemin plat, puis une montée jusqu'à un sommet, puis ils sont revenus par le même sentier. Ils marchaient à 4 km à l'heure sur le plat, 3 km à l'heure dans la montée et 6 km à l'heure dans la descente. Quelle distance ont parcouru les promeneurs ? La solution vient tout de suite, mais faites un effort, appuyez sur la touche pause, réfléchissez, cherchez la solution. Êtes-vous bien sûr que vous avez suffisamment réfléchi ? Réponse. Pour 1 km de plat, il faut marcher 15 minutes. Puisque chaque kilomètre est parcouru dans les deux sens, à l'aller et au retour, on voit que sur le plat, chaque kilomètre est parcouru pendant 30 minutes. Pour un kilomètre de montée, il faut 20 minutes. Et ce même kilomètre sera parcouru en 10 minutes à la descente. Il faut donc également 30 minutes pour parcourir un kilomètre de côte dans les deux sens. Qu'il s'agisse d'un kilomètre de terrain plat ou incliné, on passe le même temps sur chaque kilomètre. 30 minutes. Les promeneurs ont marché 6 heures et ils ont donc parcouru 12 km dans les deux sens, soit 24 km. Mais ne me demandez pas la longueur des parties plates et en pente, je ne pourrai pas vous répondre. En général, on apprend que pour résoudre un problème d'algèbre, il faut autant d'équations que d'inconnues. Ici, on a l'impression qu'il y a deux inconnues, les longueurs des deux parties du chemin. Et on n'a qu'une donnée, celle du temps de parcours total. Mais c'est une ruse. On ne cherche que la longueur totale et on a beaucoup de chance, car Lewis Carroll a bien choisi les vitesses de marche pour qu'on passe le même temps de marche sur chaque kilomètre. Les élèves répondaient aux énigmes sous couvert de pseudonymes. Dans ce cas particulier, deux écolières, Simple Susan et Money Spinner, ont trouvé la solution et l'ont rédigée sous la forme d'un petit poème que je traduis comme je peux, mais en perdant la fraîcheur. Ils sont partis à 3 heures. Jusqu'où ils allèrent sur un terrain plat, ça m'est égal. À quelle heure ils atteignirent le pied de la colline ? Quand ils commencèrent à monter ? C'est un problème que je tiens pour de très peu d'importance. Le moment où chacun a agité son chapeau sur le sommet le plus élevé ? À une question aussi triviale que celle-ci, je ne chercherai pas de réponse. Pourtant, je peux bien dire la distance qu'ils ont dû parcourir. Sur les collines et les plaines, entre 3h et 9h, les kilomètres étaient de 24. 4 km à l'heure, leur rythme régulier, le long du chemin plat, 3 quand ils grimpaient, mais 6 quand ils redescendaient à grandes enjambées. Un peu de calcul suffit, je crois, pour montrer que lorsque la montée et la descente sont comptées ensemble, ils font 4 km à l'heure. Que le temps soit long ou court qu'ils ont passé sur la colline, les deux tiers sont à la montée, un tiers à la descente, deux tiers à 3 km heure, un tiers à 6 km à l'heure. Si l'on fait le compte exact, ne feront qu'un tout à 4 km à l'heure. L'histoire n'est plus embrouillée maintenant. Lewis Carroll a écrit beaucoup d'autres choses. Je passe sous silence son livre sur les déterminants qui contient un vrai théorème intéressant que la plupart des mathématiciens feraient bien de connaître. Il a écrit une, une espèce de tragédie étonnante, en quatre actes, intitulée « Euclid and his modern rivals », « Euclid et ses rivaux modernes » en français. Le but est de convaincre le lecteur que le livre des éléments d'Euclide, écrit plus de 2000 ans auparavant, est encore un modèle de pédagogie et qu'il ne faut pas céder au modernisme dans l'enseignement de la géométrie. Euclide y apparaît sous la forme d'un fantôme qui vient défendre son livre contre 13 manuels modernes. Bien sûr, tout cela est complètement désuet aujourd'hui, d'autant plus que la géométrie a virtuellement disparu des programmes scolaires. J'aime bien aussi son livre « The Game of Logic », traduit en français comme « Logique sans peine ». Le livre est un jeu qui se joue sur une espèce de plateau et qui permet d'apprendre à raisonner correctement. L'humour de Lewis Carroll y est partout présent et on s'amuse beaucoup, même si c'est un livre sérieux. Je l'ai lu quand j'étais adolescent. Voici la préface. Le jeu nécessite 9 pions, 4 d'une couleur et 5 d'une autre. Disons 4 rouges et 5 gris. Outre les 9 pions, il faut aussi un joueur, au moins. Je ne connais aucun jeu qui puisse être joué avec moins que ce nombre, alors qu'il y a plusieurs jeux qui en utilisent plus. Prenez le cricket, par exemple, qui en exige 22. Combien il est plus facile, quand on veut jouer un jeu, de trouver un joueur plutôt que 22. En même temps, bien qu'un joueur suffise, on peut s'amuser beaucoup plus en travaillant à deux et en corrigeant les erreurs de l'autre. Un deuxième avantage de ce jeu est que, en plus d'être une source inépuisable de divertissement, il permet aux joueurs de s'instruire un peu. Mais y a-t-il un grand mal à cela, tant qu'on a de quoi s'amuser ?